Vous écoutez France Musique.
Arnaud Merlin, le matin des musiciens.
Aujourd'hui, Sidney Bechet avec Olivier Franc, Daniel Sidney Bechet et Jean-Baptiste Franc. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 91e émission du Matin des musiciens du mardi, comme chaque semaine consacrée aux grandes figures du jazz. Aujourd'hui, nous allons revenir aux sources de cette musique avec celui que l'on peut considérer comme le premier grand soliste en la matière. Je veux parler de Sidney Bechet. Né en 1897 à la Nouvelle-Orléans, mort à Garches près de Paris en 1959, clarinettiste émérite, mais avant tout exceptionnel saxophoniste soprano, grand voyageur dès sa prime jeunesse, remarqué dès 1919 à Londres par Ernest Ansermet, talentueux compositeur de thèmes, chef d'orchestre redouté et vedette considérable dans les années 50, notamment en France où il s'est établi, Sidney Bechet semble avoir vécu plusieurs vies en une seule. C'est bien sûr le musicien qui nous intéresse au premier chef ce matin, tant sa place et son rôle sont déterminants dans l'histoire du jazz, mais on ne s'interdira pas d'évoquer l'homme, et pour cela nous avons la chance d'avoir à nos côté des témoins de première génération, en la personne de son fils, Daniel Sidney Bechet, qui, derrière les fûts de sa batterie, contribue à perpétuer l'esprit des orchestres paternels, mais aussi du saxophoniste soprano Olivier Franc, dont le père, René Franc, se produisit souvent aux côtés de Bechet dans sa période française. Et puis, pour continuer la lignée, nous avons aussi le plaisir d'accueillir ce matin le fils d'Olivier Franc, le pianiste Jean-Baptiste Franc. Je précise que c'est une journée particulière, puisque cet après-midi, en prolongement de cette émission, à 14h sur France Musique, Anne-Charlotte Raymond diffusera le concert que ces mêmes musiciens viennent de donner en quintette samedi dernier à Radio France dans la série Jazz sur le vif de Xavier Prévost, qui rediffusera aussi ce concert dans sa propre émission Le Bleu la nuit sur cette antenne le samedi 19 octobre à 23h. Bonjour Olivier Franc.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Daniel Sidney Bechet.
Bonjour.
Et bonjour Jean-Baptiste Franc.
Bonjour.
Daniel, évidemment, vous êtes tombé dedans quand vous étiez tout petit, puisque vous êtes le fils de Sidney Bechet. Quand il est disparu, vous aviez 5 ans. Oui. Et est-ce que c'est une musique qui est toujours restée en vous? Est-ce que vous avez continué à faire fructifier cette musique? Ou à un moment, vous êtes tourné vers autre chose et vous y êtes revenu?
Je ne vais jamais tourner le dos. Elle a toujours été devant moi, en moi. Et il m'a fallu pas mal de temps pour bien la comprendre, même si elle m'avait été serinée dès mon plus jeune âge. Mais en tant que batteur, oui, c'est passionnant comme musique, enfin, par rapport à la rythmique et tout, c'est fabuleux.
On parlera du rôle de la batterie dans les orchestres, oui, de Sidney Bechet tout à l'heure. Olivier Franc, vous aussi, c'est par votre père que vous connaissez cette musique, votre père René Franc.
Voilà, mon père qui a eu la chance de jouer avec Sidney Bechet lors de son retour en France en 1949 au festival de Pleyel. Et donc, toute mon enfance, j'ai entendu des disques de jazz et beaucoup de disques de Sidney Bechet.
Et vous, Jean-Baptiste Franc, c'est aussi votre père, mais c'est la génération suivante.
Ça a toujours fait partie de ma vie. Si je prends du plaisir à jouer cette musique-là, c'est pareil, c'est par rapport à l'effet, le plaisir et l'émotion que ça me procure, à la fois en écoutant puis à la fois en jouant cette musique-là.
Thank you. À Genève, au Victoria Hall, en mai 1949, Summertime, le thème de George Gershwin, par Sidney Bechet, avec l'orchestre de Pierre Braslavski, au sein duquel on trouve René Franc, votre père, Olivier Franc. On a ici une démonstration absolument extraordinaire de l'art très lyrique de Sidney Bechet.
Et de l'influence de la musique classique dans ses improvisations, donc de sa culture musicale.
Oui, il disait qu'il appréciait beaucoup les ténors Richard Tauber, Enrico Caruso, qui étaient les stars de sa jeunesse. On peut penser que ça a influencé son phrasé et aussi son vibrato.
C'est assez proche du violon et peut-être du vibrato de l'époque, oui, des chanteurs qui étaient plus serrés. Mais il a un vibrato assez proche des violonistes et qui lui permet de rajouter de la tension à sa musique.
Nous sommes en 1949, mais il a déjà une longue carrière derrière lui. Et même en 1923, quand il enregistre ses premières faces, c'est déjà un musicien très expérimenté. Il avait beaucoup, beaucoup joué très, très jeune.
Plutôt que d'aller à l'école, il cachait ses livres sous un arbre et puis il partait s'isoler loin de sa maison. Et il jouait en fait de la clarinette toute la journée.
Alors on parlera de la clarinette tout à l'heure, mais il se met assez vite parallèlement au saxophone soprano et lorsqu'il enregistre avec les Blue Five de Clarence Williams en juillet 1923, il est soliste ici au saxophone soprano. On entend encore un petit peu des réminiscences du style plus ancien, voire du ragtime, Olivier Franc, dans l'introduction notamment.
Alors c'est l'un des premiers musiciens qui passe de la mise en place ragtime à la mise en place jazz ternaire. Quoi.
Ce qu'on va appeler le swing quelques années plus tard. Ça s'appelle Wildcat Blues, c'est en 1923, donc c'est donc quelques années avant les premiers grands enregistrements de Louis Armstrong. C'est dans ce sens-là qu'on peut dire que Sidney Bechet, historiquement, est le premier grand soliste, avant Armstrong même.
Thank you.
Wildcat Blues, c'était il y a 90 ans, en 1923, le premier grand solo enregistré de Sidney Bechet. C'est un grand soliste qui s'avance sur la scène du jazz, Daniel.
Wildcat Blues, ça va bien avec mon père, quoi. Je veux dire,
le chat sauvage.
Absolument.
Ça, c'est peut-être le côté créole, mélange de la Nouvelle-Orléans aussi, effectivement, où il y avait un certain nombre d'influences, l'influence française,
certainement,
l'influence espagnole.
Italienne, c'est un tout.
Alors, on évoquait tout à l'heure l'empreinte, peut-être encore, du ragtime, en tout cas dans la mise en place rythmique. 9 ans plus tard, il enregistre un rag de Scott Joplin, ça s'appelle Maple Leaf Rag. Mais là, on va voir qu'il s'est complètement émancipé sur le plan de la mise en place. Là, c'est vraiment un jazzman qui swing. C'était en septembre 1932, Sidney Bechet avait 35 ans pour cette séance du Feu de Dieu avec les New Orleans Street Warmers, avec notamment le trompettiste Tommy Lanier et le pianiste Hank Duncan, le batteur Maurice Morand. C'était donc en 1932. Là, c'est vraiment le meilleur de sa forme dans les années 30, on peut dire, Olivier Franc.
Oui, les enregistrements sur lesquels il est le plus mis en valeur. Sinon, il y a des enregistrements avec le big band de Noble Sissel, où il n'a que quelques mesures de chorus de temps en temps.
Oui, il est resté relativement longtemps avec Noble Sissel, mais il y a
des années, avec quelques morceaux de solo par soir. Sinon, il jouait du saxo-basse dans ce big band, ce qui était assez curieux. Quoi.
Alors, le même jour, ils enregistrent Shag. Alors, qu'est-ce que c'est que Shag ? Ça ressemble à quelque chose. Ça ressemble en fait à une grille que l'on connaît depuis quelques années. C'est I Got Rhythm, le thème de George Gershwin, qui va devenir une sorte de structure de base, ce qu'on appelle un anatole en français.
Voilà.
Et ils improvisent sur ces harmonies de I Got Rhythm. On le reconnaît bien parce qu'ils jouent la conclusion de I Got Rhythm en introduction de cette interprétation qui s'appelle Shag. Thank you. C'était en 1932, Shag par les New Orleans Fitwarmers avec Tommy Lanier à la trompette, Teddy Nixon au trombone, Sidney Bechet au saxophone, soprano notamment, un orchestre qui malheureusement ne va pas continuer très longtemps. C'est la crise économique aux États-Unis et Sidney Bechet est obligé pour vivre tout simplement d'ouvrir une boutique alors qu'il faisait du nettoyage, du repassage de vêtements.
Un peu, il avait une petite échoppe
à Harlem.
Bon, ben, il se réunissait pour jouer un peu de temps en temps, tous ensemble.
Sidney Bechet, on va le retrouver quelques années plus tard, en 1941, dans une interprétation tout à fait marquante d'une chanson qui avait été créée par Billie Holiday sur un texte de Lewis Allen. Et cet étrange fruit, Strange Fruit, évoque bien sûr le lynchage des Noirs américains dans le Sud. Le Sud, évidemment, c'était là d'où était originaire Sidney Bechet. Il avait lui-même son grand-père, Omar, qui était dans les bayous. Il en parlait beaucoup.
Oui, bien sûr. C'était une figure très importante.
Cette mémoire de l'esclavage était très proche.
Absolument.
Pour quelqu'un qui était né en 1897.
Oui, absolument.
Strange Fruit, 1941. Strange Fruit, la chanson popularisée par Billie Holiday quelques temps plus tôt, enregistrée en septembre 1941 par le trio de Sidney Bechet avec le guitariste Everett Barksdale et le pianiste Willie The Lion Smith. Dans les années 1940, la grève des enregistrements, une grève à laquelle nous avons fait allusion plusieurs fois dans cette émission, nous empêche d'avoir des témoignages circonstanciés d'un certain nombre de musiciens. Mais il y a ce qu'on appelle les V-disques, les disques qui étaient publiés pour le moral des troupes. Et ils participent à ces V-disques et d'une manière tout à fait flamboyante. On a un très bel exemple ici, on l'entend aussi bien en contre-champ qu'en soliste, Olivier.
Oui, surtout l'After You've Gone, c'est un petit joyau. Un chef-d'œuvre. Et puis il y a l'association de deux très grands musiciens, Vic Dickenson et
le tromboniste
Bechet, qui sont faits pour s'entendre. Thank you.
After You've Gone en 1943, Sidney Bechet, c'est New Orleans Sweet Warmers avec notamment Vic Dickinson au trombone, Don Donaldson au piano et le batteur Wilbur Kirk. Ici, on attendait une grande virtuosité dans la deuxième partie de cette interprétation, mais dans toute la première partie, on entend quelque chose de très ornemental qui vient peut-être aussi de son amour pour la musique classique, Daniel Bechet.
Ah oui, certainement, oui. Il aimait beaucoup Beethoven.
Il avait un buste sur son piano.
Oui, oui.
J'entends du Chopin aussi, je ne sais pas ce qu'on pense le pianiste, hein. Jean-Baptiste.
Moi, quand j'écoute du Tchaïkovski, je retrouve le phrasé Sidney Bechet.
Alors là, nous étions en studio en 1943. En 1949, on retrouve ce concert du Victoria Hall de Genève. On l'entend là faire des effets, ce qu'on appelle le growl. Le public du Victoria Hall de Genève en mai 1949 pour ce Blues in the Air interprété par Sidney Bechet. Je citais tout à l'heure sa propension à monter dans l'aigu, mais il descend aussi dans le grave de l'instrument, Olivier Franc.
Plutôt le grave, tout comme à la clarinette. Ouais. Il jouait relativement peu dans le suraigu et au soprano, en dehors de certaines fins de morceaux, il ne s'y risque pas trop. Ouais.
Alors sur quel type d'instrument jouait-il et avec quel matériel, équipé comment, Olivier Franc ?
Au saxophone, il a joué jusqu'à 1943 sur un cône, saxophone américain. Ensuite, il est passé à la marque Blücher, sur le modèle 2 de cette marque, jusqu'en 1952.
Et quelle était la différence avec l'instrument cône précédent ?
À mon avis, le Blücher a plus de volume. Ouais.
Et vous-même, vous jouez
sur
l'instrument
qui a appartenu ? Moi, j'ai la chance de jouer sur le dernier instrument ayant appartenu à Sidney Bechet, sur lequel il a joué de janvier 1952 jusqu'à la fin. Et c'était un Blücher dit modèle numéro 1 de 1923.
Mais alors, il y a l'instrument, mais il y a aussi ce qui vient compléter l'instrument, hein, c'est-à-dire le bec.
Le bec, oui. Alors le bec, il jouait sur un bec de la même époque, des années 20, bec Selmer, qui avait la particularité d'avoir une très grande chambre.
Alors le fait d'avoir une grande chambre, ça permettait une attaque plus volumineuse
Ces grandes chambres, ça correspondait à ce qu'avait voulu l'inventeur du saxophone Adolphe Sax.
Oui.
Et ça donne une sonorité plus large.
Une sonorité qui fait un grand effet sur le public parisien qu'il subjugue dès les années 1949-50 quand il choisit de s'installer en France. On l'entend ici notamment pour une émission de radio organisée par Charles Delaunay au cinéma au Rex en 1952 dans un tempo rapide à Funny New Baby. Thank you. Le succès populaire de Sidney Bechet en 1952 au Rex pour l'émission Jazz Variété, c'était pour la radiodiffusion française et c'était I Found a New Baby. C'est une période où il enchaîne les grandes salles. Quelques années plus tard, il viendra fêter son millionième disque. On dit que c'était même une émeute, je crois, Daniel Bechet.
À l'Olympia, oui, absolument. Ouais. Oui. Ouais. Il y avait deux concerts. Les gens qui avaient fait le premier concert ne voulaient pas ressortir. Ouais. Et les autres qui voulaient rentrer, enfin bon,
on imagine.
Pour Bruno Cocatrix, ouais. On a fait les frais. Mais,
À l'Olympia, ici, nous sommes en décembre 1954. Et Olivier, vous appréciez particulièrement cette interprétation de Temperamental avec, là encore, des effets de growl et puis des inflexions descendantes très typiques du style de Bechet.
Sur la deuxième mélodie, qui est très simple, lui, ce qu'il arrive à faire, c'est pour moi hallucinant sur le plan des idées et de la mise en place. C'est unique dans le jazz, quoi.
Temperamental en 1954 à l'Olympia, Sidney Bechet, soliste ici au saxophone soprano. On a beaucoup parlé de saxophone soprano, mais en fait, il avait commencé vraiment à la clarinette.
Mon frère, Léonard, il avait un orchestre qui s'appelle le Silver Bell. Un jour, il est arrivé à la maison avec une clarinette et il a essayé et après, il l'a mis dans un tiroir et il m'a dit, touche pas, et il a fermé le clarinet avec une clé. Alors un jour, que personne n'était pas là, j'ai ouvert le tiroir et je regarde le clarinet un peu. Et j'essayais pour souffler quelques fois. Et moi, je crus que ça fait trop de bruit. Alors moi, je mets le clarinet à la fenêtre. Et je sortis en derrière. Et je prends le clarinet et j'allais en dessous de la maison. Tous les jours, j'allais. Ma mère, elle écoutait le clarinette Et puis, elle ne sait pas où ça vient d'eau. C'est ma mère qui m'est trouvée en dessous de la maison. Alors, je viens à elle et je commençais à jouer un peu. Alors, elle était tellement surprise. Elle me laisse pratiquer tous les jours.
Entretien réalisé par Franck Thénault et Daniel Filippaki, c'était pour Europe numéro 1 en 1957, où Sidney Bechet, avec cette belle voix et cette façon très particulière de parler le français. Daniel Bechet, est-ce qu'il parlait le français quand il était à la Nouvelle-Orléans? Il avait des rudiments de créole?
Oui, parce qu'il parlait un peu créole par rapport à des tournures de phrases, mais il y avait énormément de mots français qui sont très jolis, une couleur fabuleuse.
Il jouait de quelle clarinette, Olivier Franck?
Comme beaucoup de clarinettistes de la Nouvelle-Orléans de cette époque, il jouait sur un système Albert, système archaïque, qui n'a pas les mêmes doigtés que le système le plus pratiqué actuellement, le système Böhm, dit système français. Il venait vraiment à jouer sur cet instrument dont le doigté est plus difficile que le système Böhm pour des raisons de sonorité, quoi.
En tout cas, dès 1919, lorsqu'il est à Londres dans l'orchestre de Will Marion Cook, il joue Characteristic Blues, et c'est ce thème que l'on va entendre maintenant, mais enregistré en 1937. Mais on sait qu'il l'a joué notamment devant le roi George V à Londres, et puis que c'est aussi dans ce thème que Ernest Ansermet, le célèbre chef d'orchestre, l'avait remarqué comme clarinettiste virtuose, mais aussi comme découvreur d'un nouveau chemin pour une musique à venir. C'était visionnaire de la part d'Ansermet.
Voilà, oui. Premier article de critique.
Finalement, sur un musicien de jazz en 1919. On écoute ce blues en 1937. Characteristic Blues de Sidney Bechet, enregistré en 1937 sur une composition beaucoup plus ancienne, on le sait. Le surnom de la clarinette en argot nord-américain, c'est Black Stick, c'est ça,
voilà.
Olivier Franck. C'est une composition aussi de Sidney Bechet qui l'enregistre et qui est une sorte de référence pour les clarinettistes à cette époque-là.
L'introduction, un passage difficile, même pour les clarinettistes classiques, quoi.
Oui, l'introduction, en fait, elle provient tout simplement de la partie de clarinette de l'ouverture de l'opéra de Rimsky-Korsakov, Le Coq d'Or. On va la reconnaître ici dans ce Black Stick enregistré en 1938. Thank you. 1938, Sidney Bechet dans ce Black Stick. Ce qui est intéressant quand on écoute la clarinette encore dans ces années-là, notamment en 1938, c'est de l'entendre en studio et puis en concert sur un même titre. Par exemple, ce Weary Blues qu'il enregistre avec Ladnier en studio en novembre. Et quelques jours plus tard, il va le jouer en concert à Carnegie Hall dans les concerts organisés par John Hammond. Et évidemment, il n'est pas entouré par les mêmes musiciens, le tempo n'est pas le même. Du coup, ça donne des choses très très différentes.
Ce qui est étonnant, oui, c'est que le Weary Blues, la première version studio, considérée comme un chef-d'œuvre en ce qui concerne son solo, on se rend compte que c'est sans doute totalement improvisé, parce que quelques jours après, son nouveau solo n'a strictement rien à voir avec le premier. Quoi.
Alors on écoute ces deux Weary Blues, le premier en studio le 28 novembre et ensuite le 23 décembre en concert. Weary Blues, deux versions, une version en studio en novembre 1938 et puis ensuite sur la scène de Carnegie Hall new-yorkais le 23 décembre 1938. Deux tempi différents, deux solos très différents, effectivement, Olivier Franc. C'est aussi une période où on l'entend croiser le fer avec un autre vétéran de la musique de jazz des premiers temps, c'est le pianiste Earl Hines, qui lui était de Chicago et non pas de la Nouvelle-Orléans. Et puis on le retrouve avec Baby Dodds à la batterie. Ça, c'est une séance assez rare aussi, cette séance en trio.
En ce qui concerne ce morceau, Blues in Third a fait mal passé parce que Baby Dodds voulait jouer des baguettes et que Sidney Bechet lui demandait de jouer des ballets. Enfin, et puis le résultat, c'était un chef-d'œuvre.
Précise, oui. Blues in Third, c'est Blues en tierce de Earl Hines. Thank you. 1940 à Chicago, le Blue Dancers de Earl Hines avec Earl Hines au piano, Baby Dodds à la batterie, Sidney Bechet ici à la clarinette. Il avait arrêté de jouer de la clarinette très régulièrement, en tout cas en concert à la fin de sa vie.
Oui, Sidney Bechet avait des problèmes de dents, c'est l'une des raisons pour lesquelles
il
a arrêté la clarinette dans les débuts des années 40, il s'est mis beaucoup moins en jouer. La clarinette est un instrument qui occasionne des vibrations supérieur au saxophone soprano, et donc quand on a des dents en mauvais état, ça pardonne pas. Mais après, il s'est fait refaire les dents par son frère à la Nouvelle-Orléans, Léonard Bechet, en 45, et là il s'est remis à jouer de la clarinette. Il n'y a qu'en France qu'il a abandonné la clarinette au profit du soprano, il préférait le soprano.
Mais il continuait à travailler la clarinette pour la technique, pour les arpèges.
Bob Wilber, qui était son principal élève, voire son unique élève presque, a vécu avec Sidney Bechet pendant 6 mois, et donc il nous a raconté qu'à une époque où Sidney Bechet ne jouait plus de clarinette le soir en club, il travaillait la clarinette chez lui en se levant tous les matins. Il jouait 1 heure de clarinette, essentiellement des arpèges sur des mélodies.
C'est des enchaînements harmoniques, voilà, qu'il pouvait après exploiter dans des thèmes qu'il jouait, mais sur le saxophone.
Il avait dit à mon père, si tu veux bien jouer du saxophone, il faut travailler la clarinette. En fait, la clarinette système Albert surtout est beaucoup plus difficile sur le plan des doigtés et de la technique que le saxophone. Et donc, quand on maîtrise la clarinette, le saxophone paraît facile, quoi.
C'est vrai
qu'il y a un écartement des doigts sur le système Albert qui fait que ça rend l'instrument plus difficile, quoi.
Il est vrai que le public français le connaît mieux dans ses succès au saxophone soprano, mais il a tout de même eu quelques succès à la clarinette. Par exemple, ce Blue Horizon enregistré en décembre 1944 qui a donné certainement beaucoup de vocation pour les jeunes clarinettistes.
Thank you.
Blue Horizon, enregistré en 1944 par Sidney Bechet, soliste ici à la clarinette. Bien sûr, on le connaît très bien au saxophone soprano. Il avait commencé à la clarinette. On sait qu'il jouait de saxophone assez curieux dans l'orchestre de Noble Sissel, le saxophone basse. Et puis, au hasard d'un enregistrement qu'il a réalisé en re-recording, c'est-à-dire en s'enregistrant à plusieurs reprises avec des instruments différents, ce qui était une première dans l'histoire du disque en 1941, on l'entend au saxophone ténor, au piano, à la contrebasse, à la batterie. Alors il faut être honnête, on ne l'entend pas très bien sur tous ces instruments. Il y en a qui se dégagent un peu plus que d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur The Sake of Rarabee, il avait appris en 1925 au jeune Johnny Hodges un solo que Johnny Hodges a enregistré, lui, avec l'orchestre de Duke Ellington en 1932. Mais Bechet lui-même ne l'avait jamais enregistré. Et c'est au cours de cette séance qu'on appelle le One Man Band, puisqu'il est tout seul à jouer de ces six instruments, qu'il va enregistrer pour la première fois ce solo ici au saxophone ténor sur Je sais que l'on va. Sake of Rarabee, enregistré en 1941 par Sidney Bechet, à la clarinette, au saxophone soprano, au saxophone ténor, au piano, à la contrebasse et à la batterie, par la magie du re-recording, une technique encore très rudimentaire et très naissante dans l'industrie du disque. C'était vraiment une première.
Mon père aurait été certainement très heureux de pouvoir utiliser la technologie. Il avait commencé déjà avec deux magnétos. Il aurait été ravi sur un multipiste.
On imagine. Sidney Bechet, saxophoniste soprano, Sidney Bechet, clarinettiste, Sidney Bechet, grand voyageur aussi. Dès les années 10, on le retrouve en voyage en Europe. Dès les années 20, il va jusqu'en Union soviétique. Et dans les années 30, pareil, il effectuera d'autres voyages européens. C'est quelqu'un qui, finalement, pour son époque, pour sa génération, était un globe-trotteur.
Ah ouais, absolument, oui.
Est-ce qu'il aimait voyager ?
Oui, beaucoup. Beaucoup, mais par contre, il avait une peur de la douane. À chaque fois, il culpabilisait comme s'il avait fait quelque chose.
Grand voyageur, Sidney Bechet, qui a déjà effectué plusieurs séjours en France de longue date. Il revient en 1949, alors qu'il a un succès relativement mitigé à l'époque aux États-Unis, Olivier Franc.
Aux États-Unis, il jouait dans quelques concerts, souvent organisés par Eddie Condon, dans des universités ou des concerts de jazz à Town Hall. Mais sinon, il jouait plutôt en quartet chez Jimmy Ryan, avec des horaires impossibles, de 9h à 3h du matin, une demi-heure de musique et une demi-heure de pause, quasiment tous les jours. Et Bob Wilmer m'a raconté que certaines fins de soirée, entre 1h et 3h du matin, parfois, il n'y avait plus personne lors de la dernière série, les jours de semaine particulièrement. Quoi. Donc Sidney Bechet va passer d'un statut de musicien célèbre
pour son passé, peut-être.
Pour son passé, mais musicien plutôt de nightclub à New York, avec des audiences assez réduites, à des salles pleines en France.
Une chose qui va effectivement le marquer
radical.
Lorsqu'il est invité par Charles Delaunay pour ce festival de Paris en 1949 à la salle Pléiade, il le raconte lui-même.
Quand j'ai arrivé à la salle Pléiade, cette soir-là de le concert, mais moi, j'étais petit musicien de jazz. Je croyais que vraiment j'étais ici pour faire rire, parce que je suis une espèce de vieux façon, vous comprenez. J'étais un nouveau ici, mais je n'ai un morceau qui était dedans. Un vieux morceau aussi. je fais pas mal de succès.
I Know That You Know, Sidney Bechet, en mai 1949 à Paris, à la salle Pleyel. On entend ici le piano de Bernard Pfeffer. Et quelques instants plus tard, c'est Sidney Bechet qui prend son solo au saxophone soprano. Mai 1949, à la salle Pleyel à Paris, l'orchestre de Sidney Bechet dans I Know That You Know, avec Otis Page à la trompette, Bernard Pfeffer au piano, Jean Bouchetti à la contrebasse et notre ami Roger Paraboschi à la batterie qui nous écoute peut-être. Il faut dire qu'au cours de ce festival, il est confronté à une nouvelle génération de musiciens. Il y a Tad Damon, le pianiste, il y a Kenny Dorham, le trompettiste, et puis aussi le jeune Miles Davis et bien sûr Charlie Parker, saxophoniste alto, qui défraye la chronique du bebop. Et finalement, c'est Sidney Bechet qui va remporter le plus de succès au cours de ce festival, Olivier.
Oui, d'après les témoignages des musiciens ou des gens présents lors de ce festival, c'est Sidney Bechet qui a remporté le plus d'adhésion du public et des critiques aussi.
Et on l'entend ici au cours du concert de clôture de ce festival dans un blues où tout le monde improvise. Alors il y a aussi Don Byas, il y a Bill Coleman, il y a Hot Lips Page. On écoute le moment où intervient Sidney Bechet au saxophone soprano juste avant le très jeune trompettiste Miles Davis et puis Charlie Parker au saxophone alto.
Thank you.
pause finale du concert de clôture du festival de mai 1949 à la salle Pleyel à Paris. Miles Davis à la trompette, Charlie Parker au saxophone alto, avec Sidney Bechet en soliste. Il va s'installer en France et connaître un certain succès, monter des orchestres au sein desquels la place du batteur est très importante. C'est quelqu'un qui était très exigeant avec les batteurs.
Oui, ce qu'il aimait bien, que le batteur soit très présent.
Il aimait beaucoup, oui. Buddy Rich, qui était de la génération suivante. Oui. Aussi Sidney Catlett,
qui
avait beaucoup joué avec Armstrong, et qui jouait aussi avec les Boppers, avec Dizzy Gillespie. Un passeur, Sidney Catlett. Alors, puisqu'on a la chance de vous avoir, Daniel, et que vous jouez de la batterie, on peut peut-être vous écouter tout de suite dans une composition d'Olivier Franc qui est vraiment dédiée au batteur. Hein. Ça s'appelle Drums Fantasy. On vous écoute tous les trois, Olivier Franc au saxophone, soprano, Jean-Baptiste Franc au piano et Daniel Sidney Bechet à la batterie. Thank you. Jazz Fantasy, une composition d'Olivier Franc avec Daniel Sidney Bécher à la batterie, Olivier Franc au saxophone soprano, Jean-Baptiste Franc, bien sûr au piano, nos invités pour le Matin des musiciens sur France Musique aujourd'hui consacré à Sidney Bécher. Le Bécher français, c'était une vedette tout à fait considérable dans les années 1950. Il faut dire qu'il signe lui-même un certain nombre de thèmes, de compositions, avec parfois quelques emprunts antérieurs à des compositions qui pouvaient être partagées ou qui viennent du répertoire de la Nouvelle-Orléans. Je vous propose un petit florilège de ces compositions signées Sidney Bécher et qui ont fait son succès dans les années 50. Successivement, Les Oignons, Moulin à café, Si tu vois ma mère, et puis Dans les rues d'Antibes, quatre succès de Sidney Bécher, enregistrés respectivement en 1949, 1950 et 1952. Pour les deux derniers, Si tu vois ma mère a connu assez récemment un nouveau succès, une sorte de renaissance grâce au cinéaste Woody Allen, Olivier Franc.
Dans le dernier film tourné par Woody Allen, à Paris, Midnight in Paris, le film commence par Si tu vois ma mère. Et dans l'histoire du cinéma, je crois que c'est assez rare qu'un film commence par 3 minutes et demie
avec
de
des
musique,
vues de Paris,
sans
couleur
dialogue.
Sépia. On parle des grands succès de la vedette qui était Sidney Bécher, qui était vraiment un très bon compositeur parce qu'il a signé beaucoup de thèmes. Le plus célèbre, c'est Petite fleur. Olivier, vous avez voulu l'écouter, mais dans une autre version.
La version de 54 est pour moi nettement supérieure à la première version studio. Quoi.
Peut-être parce qu'elle est enregistrée en public,
en live, oui.
En décembre 1954 à l'Olympia. Thank you. 8 décembre 1954, Petite Fleur à l'Olympia, à Paris, bien sûr. L'orchestre de Sidney Bechet, sans doute son plus grand succès, en tout cas de manière posthume, puisqu'il est mort en 1959. Sidney Bechet, compositeur, a laissé quelques inédits, Daniel Bechet.
Oui, en effet.
Et vous avez la chance de pouvoir les interpréter, puisqu'ils n'ont pas été enregistrés du vivant de
oui,
votre
père. Oui, c'est en rebobinant par l'intermédiaire d'un Rebox. Pour freiner, il fallait que j'appuie sur play en même temps.
Oui.
Et j'ai entendu des sons, il y avait deux thèmes. Mon père les interprète au piano et chantait les mélodies avec la voix. Et Olivier, avec Jean-Baptiste, ont fait en sorte qu'on puisse l'écouter,
d'écrire,
enfin, les jouer magnifiquement, quoi.
Alors, vous nous faites ce cadeau, Daniel Sidney Bechet, ce matin sur France Musique, avec Jean-Baptiste Franc et Olivier Franc, d'interpréter. On va les enchaîner, I'll Be Proud of You et Sweet Louisiana, deux compositions, deux inédits de votre père, Sidney
oui.
Bechet. On vous écoute tout de suite. Proud of You et Sweet Louisiana en medley, donc enchaîné. Daniel Sidney Bechet à la batterie, Jean-Baptiste Franc au piano et Olivier Franc, bien sûr, au saxophone soprano, deux inédits, deux compositions de Sidney Bechet, qui était aussi un compositeur très amateur de musique classique, on l'a dit, notamment de Tchaïkovski. Tchaïkovski, compositeur de ballet. Il se trouve que Sidney Bechet a écrit un ballet, la musique d'un ballet. Ce n'est pas lui qui l'a orchestré. Ça s'appelait « La nuit est une sorcière » et c'était James Tolliver qui avait réalisé les arrangements. Merci à tous les trois, en tout cas. On se quitte donc avec l'ouverture de ce ballet « La nuit est une sorcière ». Thank you. Merci encore à tous les trois, Jean-Baptiste Franc, Daniel Sinébéché et Olivier Franc. Je crois qu'il y a une actualité en termes de réédition, de parution discographique, Olivier.
Oui, alors il y a un projet en Suisse et ils vont sortir 4 CD comprenant beaucoup d'inédits et la totalité du concert de Victoria Hall
de Genève, dont on a écouté des extraits.
Qui, à mon avis, est le plus beau concert live de Béché, quoi.
Merci encore à tous les trois. Je signale que vous serez en concert avec votre groupe les 14 et 21 octobre, c'est lundi prochain et le lundi suivant. Et c'est à 20h30 à Paris, au Théâtre des Bouffes Parisiens. Cet après-midi sur France Musique à 14h, nous vous retrouverons dans le concert Jazz sur le Vif, enregistré samedi dernier à la Maison de Radio France. Et ce concert sera d'ailleurs rediffusé le 19 octobre à 23h dans l'émission de Xavier Prévost, Le Bleu, la nuit. Un concert où vous êtes en compagnie de Benoît de Flaménil au trombone et de Pierre Mingour à la contrebasse. Merci Éric Boisset, Nadège Antonini et Thomas Guillaumet pour la prise de son. Léo Duroy a accordé le piano. Dorothée Gol m'a aidé à préparer cette émission que Christine Amado a réalisée comme chaque semaine. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau Matin Jazz. Mes invités seront Frédéric Monino et François Lézot et nous évoquerons l'univers de Jaco Pastorius. Soyez à l'écoute à 11h mardi prochain. Demain c'est mercredi dans le Matin des musiciens. C'est Philippe Cassard qui vous propose une émission autour de l'opus 116 de Johannes Brahms. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission sur francemusique.fr, c'est le site de France Musique. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner au podcast.